France Culture. Avoir raison avec Günther Anders par Aïda Ndiaye.
Aujourd'hui, premier épisode, portrait d'un philosophe décalé.
Der Titel der Geschichte lautet Die beweinte Zukunft. Heute, 1987, da es niemanden gibt, der nicht wüsste, wie sterblich die kommenden Generationen heute schon sind, dass sie vielleicht zum Tode verurteilt sind. Wenn wir nicht eingreifen, heute ist der Titel gar nicht mehr frappant. Leider nicht mehr frappant.
Le titre de cette histoire est L'avenir pleuré d'avance. Aujourd'hui, en cette année 1987, étant donné qu'il n'y a personne qui ne sache pas à quel point les générations à venir sont déjà mortelles, étant donné qu'elles sont peut-être déjà condamnées à mort si nous n'intervenons pas, le titre du texte n'est plus du tout frappant. Malheureusement, plus du tout frappant. Une fois n'est pas coutume, il y a un homme caché derrière la femme. La femme, c'est Hannah Arendt, et l'homme, c'est Günther Anders, dont nous venons d'entendre la voix introduisant la lecture de son texte, écrit en 1961, « L'avenir pleuré d'avance ». Philosophe bien moins connu qu'Hannah Arendt dont il fut l'époux, Anders était également le cousin de Walter Benjamin, l'ami de Hans Jonas et Ernst Bloch, l'élève de Husserl et de Heidegger. L'homme dont nous allons parler toute cette semaine est donc d'abord une figure d'intellectuel comme on n'en fait plus. Né en 1902 et mort en 1992, il traversa le siècle et propose une œuvre immense, encore largement inédite même dans sa langue originale, et qui nous aide à penser notre temps. La catastrophe à venir et la barbarie passée, ou encore l'irruption de la technologie dans notre monde et nos vies, voilà notamment quelques-uns des thèmes qu'il explore inlassablement et sous de multiples formes, allant du roman à l'interview imaginaire, de l'essai à la fable, en passant par les correspondances. Je vous propose donc de dresser aujourd'hui le portrait de ce philosophe décalé en compagnie de mon invité. Bonjour Karine Parientimer. Vous êtes professeur d'allemand, de français et de sciences sociales à Fribourg et vous avez notamment co-dirigé avec Christophe David un numéro de la revue Tumulte consacré à Günther Anders qui est apparu en 2007 aux éditions Quimé. Pour commencer, Karine Parientimer, je l'ai évoqué rapidement dans mon introduction, Günther Anders est un philosophe qui est relativement méconnu en France, même si cela commence à changer, il y a de nombreuses recherches le concernant. À quoi est-ce que cela tient? Est-ce que précisément c'est parce qu'il est dans l'ombre de Arendt ou de ses illustres contemporains? Est-ce que c'est d'ailleurs une spécificité française ou est-ce qu'il en va de même dans les autres pays?
Alors, il est méconnu, il y a plusieurs raisons à cela. Mais il est méconnu, je veux le nuancer, il a été connu en tant qu'essayiste, activiste, en tant que militant contre le monde nucléaire. C'est quelqu'un qui a réalisé une correspondance avec le pilote d'Hiroshima, qui a eu une correspondance et qui l'a fait publier, qui l'a interprété. Et ça, c'était quelque chose qui a été traduit en 17 langues. Donc, c'est quelqu'un qui est certes inconnu sur le plan académique, ou qui est en train d'être connu plutôt, mais qui était assez connu dans le monde journalistique, dans le monde de l'essai.
Oui, parce qu'on va y revenir. En effet, c'est quelqu'un qui intervenait énormément dans le débat public. Beaucoup de ses textes sont des interviews. En effet, il n'hésitait pas à intervenir publiquement dans les débats de son temps.
Oui, il affirmait être un philosophe de circonstance, c'est-à-dire avoir une parole qui est une parole écrite, hybride, entre la métaphysique et le journalisme. C'est-à-dire qu'il voulait s'adonner à saisir à l'intérieur même du singulier ce qu'il y avait d'essentiel, trouver les essences à partir du singulier. Et c'est une méthode qui est à la fois hybride et qui est très peu académique, et ça peut être aussi une raison pour laquelle il n'a pas eu de reconnaissance académique. Par ailleurs, il y a une En France, en tout cas, là, une autre raison pour son manque de reconnaissance, cette fois-ci, pas seulement sur le plan académique, mais sur le plan de ses idées, c'est qu'il a été tardivement traduit par divers traducteurs. La France est en train de se rattraper. En ce moment, le rythme de traduction est plus important. Et une autre raison encore, c'est que son œuvre était très éparse. C'était quelqu'un qui était très, très foisonnant, intellectuellement très doué, et qui écrivait en permanence plein de choses avant même de les avoir publiés. Donc beaucoup de ses œuvres ne sont pas encore publiées, sont encore aux archives, aux littérature archives de Vienne.
Oui, c'est ça, effectivement. En France, donc, c'est notamment Christophe Davin, dont on peut saluer le travail, qui a contribué à diffuser cette œuvre en traduisant de nombreux textes de Anders. Et en effet, comme vous venez de le dire, il y a ces archives à Vienne qui contiennent, j'ai cru comprendre, énormément de documents qui ne sont toujours même pas édités, donc en allemand, en fait.
Oui, qui ne sont pas édités. Parfois, c'est des documents manuscrits qui sont même difficiles à déchiffrer. J'en ai vu certains. Donc, c'était quelqu'un qui avait une ambition à l'origine très, très grande, celle de réaliser tout un système de la pensée. Et en fait, ce qu'il a dit, c'est que la réalité historique, les événements de sa vie privée qui étaient imbriqués avec la réalité historique l'ont rattrapé en quelque sorte, et il n'a jamais réussi à faire ce système.
Alors justement, venons-en un peu plus à ce parcours. Nous avons entendu en début d'émission cet extrait donc qui est tardif, de 1987, je rappelle qu'il est décédé en 1992, dans lequel il lit un texte de 1961 qui correspond un peu à ce qu'on pourrait considérer une deuxième période, en tout cas la période post, disons, Hiroshima. Mais rembobinons un petit peu pour nous plonger dans le début de sa vie. Je vous propose qu'on écoute une lecture par Jules Barbier d'un extrait de son texte « Et si je suis désespérée, que voulez-vous que j'y fasse ?» paru en 1977, qui est précisément une interview dans laquelle il revient en fait sur sa vie.
Ce nom d'Anders est venu de la façon suivante. En 1930, j'avais voulu, sur la base de ma philosophie de la musique, être habilité pour enseigner à Francfort. Mais Wertheimer, Tillich et Mannheim me demandèrent d'avoir un peu de patience. Pour l'instant, c'est d'abord le tour des nazis, pour un an ou plus. Quand ils seront tombés, nous vous donnerons votre habilitation. Je ne partageais absolument pas cet optimisme, disons, pour être charitable, enfantin. Je partis pour Berlin. J'étais alors marié avec une jeune femme qui est devenue, entre-temps, à juste titre, une philosophe réputée. Et je me mis à chercher un emploi. À la radio de Hesse, je venais de faire sur Brecht, qui n'avait alors guère plus de 30 ans, une émission que j'avais intitulée « Bert Brecht, le penseur ». Je me rendis tout droit chez lui, avec le texte de l'émission, en le priant de le lire. À partir de demain, lui expliquai-je, il faut que je gagne de l'argent. Pensez-vous pouvoir m'aider ? Dès le lendemain, il téléphona en ma présence à Ehring, qui était alors le pape de la culture au Börsenkurier. Il y avait là quelqu'un qui était assis à côté de lui, expliqua-t-il de ce ton sans appel, qui, déjà à l'époque, lui était propre. Quelqu'un qui, à partir du lendemain, écrirait régulièrement dans le Börsenkurier. Il n'avait encore rien fait, mais il avait l'air capable de faire quelque chose. Voilà comment, du jour au lendemain, c'est dire la position dominante de Brecht déjà à cette époque, je devins homme à tout faire au Börsenkurier, écrivant sur tous les sujets que les autres ne prenaient pas, aussi bien les viols d'enfants qu'un colloque sur Hegel ou une nouvelle policière. Il fallait bien que tous les jours il y eût quelque chose pour que nous puissions vivre. Jusqu'à ce qu'un jour, Ehring m'accueillit en me lançant un « Stop ! Ça ne peut plus continuer ainsi. Nous ne pouvons pas sortir la moitié de nos articles sous la signature de Günther Stern. Eh bien, vous n'avez qu'à m'appeler Anders, proposai-je, ce qui, en allemand, signifie autrement. » « Bien, dit-il, à partir de maintenant, vous vous appelez aussi Anders. » À dater de ce jour-là, j'ai signé tous mes textes non philosophiques, poèmes ou nouvelles, du nom de Anders.
France Culture. Avoir raison avec Günther Anders par Aïda Ndiaye.
« C'était donc une lecture par Jules Barbier d'un extrait du texte de Günther Anders, Et si je suis désespérée, que voulez-vous que j'y fasse ? Qui est un entretien avec Matthias Greifhardt, réalisé en 1977. Beaucoup de choses dans ce texte, Karine Parientimer, à la fois l'évocation de son rapport, disons un petit peu compliqué à l'institution, puisqu'il montre, il évoque là le fait qu'il n'a pas été habilité pour enseigner à Francfort, là en l'occurrence. Il évoque également son épouse, en l'occurrence Hannah Arendt, et puis ce changement de nom lié à une activité journalistique, disons, très prolixe, très prolifique. Alors, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, Karine Parientimer, évoquer cette figure de Anders à ce moment de sa vie, c'est-à-dire cette première période allemande, disons?
À ce moment de sa vie, Günther Anders était un jeune philosophe plein très très prometteur qui avait fait sa thèse avec Husserl, thèse de phénoménologie sur la catégorie de situation, et il avait envie d'élargir son propos sur la situation après avoir découvert l'immense personnage qui était Heidegger et d'autres encore comme Scheler, comme l'anthropologie philosophique. Il avait l'intention de réaliser une habilitation en anthropologie philosophique à partir de travaux sur la musique. Et effectivement, il a présenté ses travaux à Francfort, comme vous le dites, à l'école de Francfort, qui, elle, était très très hostile au spell heideggerien, qui attirait tant d'étudiants, mais qui, pour les francfourtiens, évidemment, avait quelque chose déjà aussitôt qui s'apparentait à des bruits de bottes. Donc, à Francfort, il a présenté des travaux d'anthropologie philosophique et il avait, en réalité, on l'a fortement encouragé à continuer. C'est vraiment les circonstances qui font qu'il n'a pas eu cette habilitation.
Pensais que c'était, j'ai lu quelque part que c'était Adorno qui s'était opposé, qui avait émis des réserves pour cette habilitation.
Alors non, c'est pas des réserves en fait. Adorno et Horkheimer avaient soutenu ce travail qu'ils trouvaient foisonnant. C'est des rumeurs qui circulent puisque Adorno a aussi fait une philosophie de la musique. Enfin, c'est Anders qui dit que par une forme de jalousie, il aurait voulu marcher sur ses plates-bandes, mais en réalité, c'est qu'on lui a dit, en ce moment l'habilitation, c'est pas le moment, et rien d'autre en fait. Je pense pas que ça soit vrai. Une manœuvre. Non, au contraire, ses écrits d'anthropologie philosophique ont été vraiment appréciés. D'ailleurs, on peut peut-être en parler.
On les évoquera dans un autre épisode de notre série. Là, j'aimerais qu'on revienne aussi sur finalement ce nom qu'il a changé, son véritable patronyme. Günther Stern, il est le fils de William Stern, un célèbre psychologue, l'inventeur de la mesure du quotient intellectuel. Il naît donc dans cette famille de culture, disons, juive, et il a un rapport assez particulier à cette judéité. Il en écrit un texte qui s'appelle « Ma judéité », qui paraît en 1974. Comment est-ce qu'il s'inscrit dans cette famille, dans cet héritage, dans cette culture, sachant que la Seconde Guerre mondiale, la Shoah seront des moments très marquants dans son œuvre et dans sa vie.
Oui, Günther Stern, comme son nom le laisse penser, vient d'une famille juive issue de la bourgeoisie de Breslau. Son père a cofondé avec Cassirer l'université de Hambourg. Donc, il a eu une enfance très choyée d'intellectuels, de juifs assimilés. Son père, effectivement, vous l'avez rappelé, était psychologue, fondateur de l'idée de quotient intellectuel. Il a écrit une œuvre sur le développement de l'enfance, et c'est quelqu'un qui était la principale source d'inspiration de Piaget. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ce sont ses trois enfants, Günther, Eva et Michaelis, qui ont servi de base empirique pour constituer ces résultats sur le développement de l'enfant. Et il s'agissait d'avoir des enfants qui soient très cultivés, qui fassent de la peinture, qui fassent de la musique. Anders était musicien, était pianiste, a composé, a dessiné, a écrit des poèmes. Vraiment cette culture sous le nom d'Humboldt. Donc par rapport à son origine, donc il est d'une famille juive assimilée, qui est tellement assimilée d'ailleurs qu'elle oublie tout de même qu'elle fait partie d'une minorité. Et il aura sur sa famille justement a posteriori ce regard un peu ironique, disons qu'ils étaient très naïfs. Il commente une photo d'Edith Stein par exemple. Cette penseuse qui est devenue carmélite, qui s'est convertie au judaïsme, et dit sur cette photo, elle est habillée en costume traditionnel du nord de l'Allemagne, mais en fait, il dit, mais à travers ses yeux percevait la mélancolie du shtetl. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de juifs ont un petit peu refusé, on peut pas leur faire le reproche, un petit peu refoulé. Et c'est ce que Günther Anders a reproché à sa famille, à certains juifs. Il a d'ailleurs dit que son père était mort en 1938 et que c'était le bon moment pour lui et qu'il n'a pas pris connaissance de la catastrophe. Et justement, toute sa croyance en l'émancipation au nom de Goethe, Humboldt, le roman d'apprentissage, toute cette culture allemande se serait complètement envolée en fait.
Alors, dans les années 30, en 1933, il émigre en France après avoir épousé Hannah Arendt, donc. Et ensuite, il s'exilera également aux États-Unis. Cet exil américain, à partir de 1936, marque une période très importante dans sa vie, puisqu'il dit finalement que s'il n'avait pas vécu cet exil, jamais il n'aurait développé sa pensée de la technique et la pensée notamment qu'il déploie dans l'obsolescence du monde dans l'obsolescence de l'homme dont nous parlerons demain. Est-ce que vous pouvez en quelques mots, Karine Parientimer, nous expliquer ce qui se passe quand il arrive aux États-Unis, de quoi est-ce qu'il vit, puisque c'est notamment en tout cas son expérience à Hollywood dans les studios qui forge justement une certaine dimension de sa pensée, la critique de la culture de masse notamment.
Oui, effectivement. Et il s'installe à Hollywood. D'ailleurs, il n'a pas d'appartement à lui. Il habite à Santa Monica chez Marcuse. Il donne des cours particuliers à la fille d'un grand industriel. Donc, il a une vie un petit peu précaire. Et il a ce qu'il appelle un autre job à Hollywood, dans les vestiaires des studios. Et c'est lui qui doit nettoyer les vêtements. Et il raconte, il aime relater cette anecdote dans laquelle il dit avoir dû nettoyer les bottes de SA devant lesquelles il avait dû fuir.
Oui, des bottes de costume de
SA. Voilà, de des bottes de costume de SA, et ça lui donne l'idée, en fait, une forme de prémisse de sa philosophie des médias, quoi. Le monde du nazisme, il a été recréé dans ses films, et ce sont les victimes de l'histoire, les juifs qui sont censés en donner une forme d'authenticité. Donc là, ça critique du monde comme fantôme, du monde des médias comme fantôme, il dit l'amorcer avec cette anecdote. Günther Anders, ça c'est intéressant, c'est un philosophe qui se raconte, qui travaille toujours à partir de journaux d'observation. Et ce ne sont pas des journaux intimes tels qu'on peut les imaginer aujourd'hui, trash, ce sont quand même des journaux qui seront destinés à être publiés.
Oui, il y a une partie notamment justement de l'obsolescence de l'homme qui est précisément un journal. Rapidement également, je voulais revenir sur sa relation à Hannah Arendt. C'est quand même important. Ce n'est pas banal, comme je l'ai dit en introduction, que ce soit une femme, la femme qui soit plus connue que l'homme. Donc, ils se rencontrent à Marbourg, où il est l'élève de Husserl dans les années 20. Et il épouse Arendt en 1919. Il divorce en 1937. Jusqu'à quel point est-ce que leurs travaux se sont mêlés? Jusqu'à quel point est-ce que leurs pensées se sont influencées mutuellement? Ils travaillent quand même sur les mêmes thèmes, même si la question de la bombe n'a pas dans l'œuvre de Arendt la dimension centrale qu'elle a dans l'œuvre de Anders, et on va y revenir. Mais la question du monde, de la culture, de la technique, c'est aussi une question sur laquelle travaille Arendt.
Oui, oui, oui. Ce sont tous les deux des juifs allemands traumatisés par la catastrophe. Hein. La catastrophe dont ils ne veulent pas qu'elle se reproduise, bien sûr. Concrètement, ils ont beaucoup travaillé ensemble, notamment sur l'anthropologie philosophique. Et Günther Anders, c'était en quelque sorte l'intermédiaire d'Arendt pour sa prise de connaissance de l'anthropologie philosophique. C'est lui qui lui a rendu Scheller plus proche, et l'idée d'Arendt, justement, qui est très anti-heideggerienne, celle de la natalité, celle de la seconde naissance dans le regard des autres hommes. Elle a un écho chez Günther Anders avec son idée de l'artificialité de la nature de l'homme et l'instabilité de son essence. La contrepartie, en fait, de l'artificialité de sa nature, de cette instabilité, de cet être déficitaire en extranéité, c'est qu'il doit lui-même créer son monde, créer son rapport au monde, se l'approprier. Et donc, c'est très, très proche de la natalité dont parle Arendt. Et tous les deux, ce qui les rapproche aussi, c'est une forme de ressentiment à l'égard de Heidegger, qu'ils ont admiré, mais dont ils veulent évidemment se détacher pour des raisons biographiques pour elle, mais pour des raisons plus philosophiques.
Un des premiers textes de Anders, c'est précisément un texte sur ou contre Heidegger, en 1948, sur la pseudo-concrétude de la philosophie de Heidegger.
De Martin Heidegger, oui.
On a évoqué à plusieurs reprises, et donc on va y venir désormais, la question centrale dans l'œuvre de Anders du nucléaire, la manière dont les Hiroshima et Nagasaki ont constitué une rupture. Il le dit lui-même dans sa vie, et comme vous l'avez évoqué aussi, il entreprend une correspondance avec Heatherly, qui était le pilote d'un des avions de repérage météorologique au moment du bombardement d'Hiroshima de 1959 à 1961. Je vous propose qu'on écoute un extrait de cette correspondance.
Günther Anders à Claude Heatherly, le 3 juin 1959. Cher monsieur Heatherly, l'auteur de ces lignes vous est inconnu. Vous, cependant, êtes connu de mes amis comme de moi-même. Que nous soyons à New York, à Vienne ou à Tokyo n'a aucune importance. Nous observons avec crainte la manière dont vous tentez de contrôler et de maîtriser votre situation. Non par curiosité, ni parce que nous serions intéressés sur le plan médical ou psychologique par votre dossier. Nous ne sommes ni des médecins ni des psychologues. Mais parce que, mus par un intérêt ardent, nous nous sommes donné pour tâche quotidienne d'ouvrir une voie au cœur des problèmes moraux qui entrave la route de l'humanité aujourd'hui. La technicisation de notre être. Le fait qu'aujourd'hui nous puissions être, sans le savoir et indirectement, tels les vis dans une machine, utilisés dans des actions dont les conséquences dépassent notre vue et notre imagination. Et que, puissions-nous les imaginer, nous n'approuverions pas. Ce fait a transformé les fondements mêmes de notre existence morale. Ainsi, nous pouvons nous retrouver dans la peau d'innocents coupables, une situation qui ne s'est jamais produite au cours des siècles techniquement moins avancés de nos pères. Vous comprenez ce que cela a à voir avec vous. Après tout, vous êtes un des premiers à avoir été réellement embarqué dans cette nouvelle sorte de culpabilité, dans laquelle chacun de nous peut se voir pris aujourd'hui ou demain. Ce qui pourrait nous arriver demain vous est vraiment arrivé à vous. Par conséquent, vous jouez pour nous le rôle d'exemple suprême, et même celui de pionnier.
C'était donc une lecture de la correspondance entre Günther Anders et Claude Heatherly, qui est publiée dans le volume Hiroshima et partout, qui est apparu au Seuil en 1995, lui ici par Jules Barbier. Günther Anders entretient donc cette correspondance assez volumineuse, en fait, hein, ça occupe une large partie de ce volume, justement, Hiroshima et partout. Il tente aussi, on en reparlera dans notre semaine, une correspondance avec le fils d'Eichmann, qui restera lettre morte, si je puis dire, puisqu'il n'obtiendra pas de réponse aux deux lettres qu'il lui enverra. Comment est-ce qu'il en arrive, en fait, à essayer d'entretenir ces correspondances avec ces deux personnages, Claude Heatherly et le fils d'Eichmann? Qu'est-ce qu'il va chercher dans ce travail, en fait, ou dans cette correspondance, Karine Parion-Dimer?
Alors, pour Heatherly, cette démarche de commencer une correspondance avec un personnage réel de l'histoire, ça fait partie de sa méthode philosophique qui consiste à lier à la fois le phénomène général, la situation technicisée, le monde atomique, et le phénomène singulier, un personnage réel ayant existé. Donc sur le plan méthodologique, c'est sa façon de faire, et c'est sa lettre ouverte au fils d'Eichmann relève de cette même logique. Cette lettre ouverte n'a pas eu d'écho, juste un écho négatif.
Voilà, elle sera publiée, mais effectivement, il n'obtiendra pas de réponse.
Et encore moins de remords.
Oui, nous reviendrons toute cette semaine sur l'importance de justement ces événements dans la vie de Anders. Il s'engage également dans le tribunal Russell qui juge les crimes contre l'humanité de la guerre du Vietnam. Est-ce qu'on peut dire que Anders est avant tout, en fin de compte, ce qu'on appelle un intellectuel engagé, un militant? Est-ce que c'est ça la dimension finalement quand même première de son existence?
Oui, l'idée d'intellectuel engagé, oui, on peut tout à fait la soutenir pour Anders. Alors, est-ce que c'est un intellectuel engagé comme l'entendait Sartre? C'est un intellectuel qui s'engage dans le monde, qui choisit ses combats. Maintenant, dire que c'est un militant, il était un des cofondateurs du mouvement anti-atomique, effectivement, mais il n'a pas été dans des manifestations. Il y a aussi d'ailleurs des textes dans lesquels il se moque ou il critique un peu les happenings américains où il vivait à Vienne, l'actionnisme viennois. Donc c'est un militant, mais un militant avec sa plume. Mmh. Sa plume qui peut être très acerbe, dans laquelle il peut même défendre, dans certains cas, à certaines occasions, la violence.
Oui, on en reparlera. Pour terminer, Karine Parion-Dimer, parce qu'il nous reste seulement quelques minutes, je voulais qu'on revienne aussi sur son rapport assez particulier aux institutions. Nous avons évoqué en début d'émission le fait qu'il s'est vu refuser un poste, une habilitation à diriger des recherches, mais il a aussi refusé des postes, refusé des prix, des récompenses. Pourquoi ?
Oui, alors ça, c'est tout à son honneur. En fait, il a refusé un poste à Halle, il a refusé de travailler pour la RDA. Et pour des raisons morales, on lui avait aussi fait une proposition en RFA. Il a refusé de s'engager pour deux États qui, chacun à sa manière, n'avaient pas réalisé leur dénazification. Ça montre qu'il avait des critères moraux très importants et qu'il les mettait en œuvre dans sa vie concrète. Donc il a préféré vivre très difficilement et même pauvrement de sa plume.
Merci beaucoup, Karine Parion-Dimer. Toutes les références de vos écrits sont à retrouver sur le site franceculture.fr et dans l'application Radio France, comme tous les épisodes de cette série. Cette émission a été préparée par Jules Barbier et réalisée par Daphné Leblon avec à la technique Olivier Arnay. Demain, pour le second épisode de notre série, nous nous intéresserons aux grandes œuvres de Günther Anders, l'obsolescence de l'homme, et aux concepts clés qu'il y déploie, avec mes deux invités, Édouard Joly et Rares Badescu. À demain!